Rémy de Gourmont, sur le seuil, au château de la Fourche, tout était triste et grand. Ce nom patibulaire, d'abord, souvenir des primitives et dures justices seigneuriales, les quatre avenues sombres, dont les lamentations faisaient un bruit d'océan, les douves où des cygnes noirs nageaient parmi les roseaux brisés, les menaçantes ciguës et tant de fleurs jaunes, épanouies mais comme des soleils de mort, le château, avec ses murs couleur de ciel d'orage, son toit creusé de sillons, tel qu'un labour, ses étroites fenêtres ogivées et tréflées, sa tour découverte, découronnée, proie d'un lamentable lierre qui semblait la perpétuité même de la vie. Le perron gravi et la porte franchie, on entrait en de vastes salles, hautes et froides, meublées de chênes, tendues de verdure, où se revoyaient les roseaux penchés de la douve, ses fleurs mornes et ses cygnes, abritant sous leur ombre glacée la promenade royale des cygnes désespérés. Nul tapis que des nattes de paille. Partout, des chiens dormant, le nez entre les pattes, et spectre étrange, auquel je ne m'habitue pas du tout, vagant de salle en salle, faisant claquer son bec dès qu'on ouvrait les portes, un héron familier. Cet être funèbre était partout. Il nous suivait à l'heure des repas, prenant dans une jatte, picotant où l'on lui jetait sa pâture, faisant à intervalles réguliers un bruit pareil à celui d'une tuile branlante que le vent secoue sur un vieux mur. On l'appelait le missionnaire, parce qu'il ressemblait avec son regard oblique et par paterne à un révérend père, Cacussin, qui avait prêché sa mission à la Fourche, et dont la mort, survenue peu de jours après, avait coïncidé avec l'apparition de l'oiseau brisé, blessé d'un coup de fusil et trouvé sur le Douve par un garde-chasse. Cette histoire un peu ridicule m'avait amusé, le premier soir passé à la Fourche, quand mon hôte me la conta sur un ton qui cependant excluait toute jovialité. Mais dès le lendemain, le missionnaire m'épouvanta, moins par sa laideur que par son assurance, par la certitude où semblait cette bête d'être chez elle, d'être maîtresse et vraiment d'y accomplir une mission surnaturelle. Jamais on ne la rabrouait, jamais on ne l'enfermait. Dès que son bec claquait contre une porte, on se levait vite pour lui ouvrir. Et si elle sortait en même temps que nous, elle passait la première, grave et l'air, non de n'importe quel oiseau de capucin, mais l'air d'un vieux juge incorruptible et lourdement impitoyable. Le missionnaire, intérieurement, je lui avais donné un autre nom, le remords. Or, un soir, que nous nous levions de table, ayant soupé de venaison et de cidre parfumé aux genièvres, je me heurtai à l'oiseau près de la porte, et impatienté, je dis à mi-voix, « Passe donc, remords !»« Pourquoi n'avez-vous pas, le missionnaire ?» me demanda brusquement le marquis de La Hogue, en me saisissant le bras et en me regardant avec des yeux animés d'un sentiment que je crus d'abord de la colère, mais qui était de la terreur. Et il ajouta d'une voix qui tremblait et qui cassait les mots, comme pour en extraire malgré soi le secret, « Comment savez-vous qu'il s'appelle le remords ? Qui vous l'a dit ? Mais vous ! » Et par ce seul mot, lancé bien au hasard, car j'étais presque aussi troublé que M. de La Hogue, je je venais de m'assurer de prochaines confidences. Quand nous entrâmes dans la salle de nos causeries du soir, l'oiseau était devant la cheminée, où flambaient les arbres, debout, sur une patte, le bec sous son aile. Pour la reprendre le dialogue, je dis simplement, en m'asseyant dans un des fauteuils de bois, pareil à des stalles de cathédrale, « Il dort ?»« Oh, il ne dort jamais !» répondit M. de la Hogue. Quand nous entrâmes dans la salle de nos causeries du soir, l'oiseau était devant la cheminée, où flambaient des arbres, debout sur une patte, le bec sous son aile. Pour reprendre le dialogue, je dis simplement, en m'asseyant dans un des fauteuils de bois pareil à des stalles de cathédrale, « Il dort ?»« Oh, il ne dort jamais !» répondit M. de la Hogue. Et en effet, à une lueur plus vive qui sortit du foyer, j'aperçus, ironique et froid, me fixant avec l'éclat sali d'une étoile vue dans une mare à grenouilles, l'œil du vieux juge, un œil incorruptible et doucement impitoyable. « Il ne dort jamais, » reprit M. de la Hogue. « Moi non plus, mon cœur ne doit jamais se... dort jamais. Je connais le sommeil, mais j'ignore l'inconscience. Mes rêves sont tellement la continuation de mes pensées du jour, du soir, et le matin, je renoue si logiquement mes rêves à la pensée que je ne me souviens pas d'avoir cessé de nager en pleine clarté intellectuelle pendant une heure depuis 30 ans. Et à quoi je songe ainsi durant les interminables heures de ma vie ? À rien, ou plutôt à des négations, à ce que je n'ai pas à faire, à ce que je ne ferai pas, à ce que je ne ferai même pas si la jeunesse m'était rendue. Car je suis ainsi, je suis celui qui n'a jamais agi, qui n'a jamais levé le doigt vers l'accomplissement d'un désir ou d'un devoir. Je suis le lac qu'aucun vent n'a jamais ridé, la forêt qui n'a jamais brui, un ciel introublé par les nuages de l'action. Il se tut quelques instants après ces phrases un peu solennelles et même déclamatoires, puis « Connaissez-vous ma vie ? Oh, vous êtes trop jeune, et d'ailleurs ce que le monde sait de moi n'est pas moi. Je ne me suis jamais raconté, et sans le hasard ou la providentielle perspicacité qui vous en fait tantôt préférer un mot, un nom qui épouvanta, je l'avoue, vous ne me recevrez pas ce soir, vous non plus, ma confession. La voici. J'avais 8 ans quand ma mère ramena d'un voyage lointain une petite fille à peu près du même âge, notre cousine, au moins par le nom, et que la mort de ses parents laissait aussi dangereusement seule au monde qu'une agnelle perdue la nuit dans un bois. Cette adorable petite fut tout de suite l'enfant gâté et pour moi une idéale sœurette, et peut-être même une évidente fiancée, un ange chu des étoiles pour mon éternelle consolation. À 12 ans, cœur précoce et vigoureux garçon, grandi parmi les pâtres, j'avais déjà Nigel, je l'aimais déjà d'un amour infini, et qui, par conséquent, jusqu'au jour où je l'ai perdu, n'a pu ni croître ni décroître. Elle m'aimait aussi d'une ardeur toute pareille. Je le savais, et l'aveu qu'elle m'en fit mourante ne m'apprit rien que ma propre scélératesse. Dès qu'un peu de raisonnement avait été possible à ma cervelle d'enfant, je m'étais fait de la vie une conception singulière, et je le sens maintenant, criminel. Ayant cueilli une rose un midi que son parfum exaspéré me tentait et que la pourpre de son sourire me donnait des envies de conquête, et enterré dans les allées du jardin avec ma rose, cueillie et oubliée entre mes doigts, je vis qu'en moins d'une heure, elle s'était flétrie toute et attristée toute, blessée par les flèches du soleil, et je songeais qu'il faut désirer les roses, mais qu'il ne faut pas les cueillir. Et je songeais aussi, Nigel venant au-devant de moi, qu'il faut désirer les femmes, mais qu'il ne faut pas les cueillir. Beaucoup de pensées assiégèrent à la suite de cette primordiale découverte, et lentement, toute une philosophie de néant, toute une religion nirvanique s'élabora dans mon orgueilleuse et faible tête. Et un jour, je me la résumais d'un mot, il faut rester sur le seuil. Quelques livres m'avaient aidé, des écrits asiatiques, ascétiques, un résumé de Platon, des abrégés de métaphysique allemande. Mais pratiquement, ma doctrine était bien à moi. J'en devins très fier et je m'enfonçais résolument dans les ténèbres de l'inaction. Je m'appliquais à ne consommer que les actes les plus simples et surtout ce qui, ne me promettant aucun plaisir exceptionnel, ne pouvait me causer aucune déception. J'avais de violents désirs, je m'y complaisais, je m'y roulais, je m'en saoulais. Mon cœur s'élargissait au point de contenir le monde. Désirant tout, j'avais tout, mais j'avais pas tout de la même façon qu'on tient entre ses mains de petites mains tremblantes. Je prenais tout, mais rien ne se donnait à moi. J'avais tout, mais sans amour. Ce n'est que plus tard, en un moment solennel, que je connus l'existence de l'amour. Jusqu'à ce moment-là, l'orgueil m'en donna l'intuition, l'illusion. Et je vécu parfaitement heureux, fier d'échapper au désenchantement qui naît de tout acte accompli. Aujourd'hui même, et maintenant que je sais, maintenant que la douleur m'a instruit, il me serait impossible de cueillir la rose. À quoi bon ? Cet épouvantable refrain chante sans cesse dans ma tête et n'a jamais été plus impératif. Nigel et moi, nous vécûmes 20 ans l'un près de l'autre. Elle devenait chaque jour plus timide et plus triste, effarée de ma fortune, la pauvre qui ne possédait rien que la moisson mûre de ses cheveux bleus, blonds. Et moi, de plus en plus orgueilleux et indestructiblement intact, muet. Je l'aimais tant qu'on peut aimer, mais je ne l'aimais que jusqu'au désir, que jusqu'au seuil. Ce seuil, je ne l'ai jamais franchi, et pas même mon ombre, et pas même l'ombre de mon cœur ne s'est promenée dans ce palais d'amour. Hospitalière et tendre, la porte était toujours ouverte, mais je détournais la tête quand je passais par là pour contempler mon propre désir, pour parler avec mon désir, pour confier à mon désir les rêves que je voulais irréaliser, franchir le seuil et après, ce palais était peut-être un palais comme tous les palais, mais le palais de mes songes était unique, telle qu'on n'en reverra plus jamais d'autre. Elle mourut de m'avoir aimé, moi qui l'aimais d'un amour que je redis infini. Mais elle mourut en me disant « Je t'aime ». Et moi, je ne répondis rien. Le héron changea de patte, fit claquer son bec et l'aile gauche se passa sous l'aile droite. Et cela ironique et morne, regardez maintenant Monsieur de la Vague. Et cet oiseau, reprit mon hôte, vous semblez d'un lait de bien ridicule, n'est-ce pas? Bon, non, bien funèbre surtout. Ridicule et funèbre, je supporte comme un châtiment. Il me fait peur, il me fait souffrir, et je veux qu'il en soit ainsi. Vous comprenez bien que s'il ne passait de lui tordre le cou, ce serait une affaire vite exprimée. Y pensez-vous, dis-je, tordre le cou au remords? Oh, j'y ai pensé, répondit Monsieur de la Hogue. Et à quoi bon? Il y a dans cette ridicule et funèbre bête nulle signification que celle que lui donne ma volonté. Je n'ai qu'à la nier pour qu'elle soit ainsi morte qu'un oiseau empaillé. Croyez-vous que je sois dupe de son inanité? Prenez-vous pour un fou? Le vieillard s'était levé, secouant les longs cheveux gris qui pleuraient sur ses joues pâles et creuses. Puis, soudain calmé, il se laissa retomber de son fauteuil. Il répéta, très apaisé, un peu moqueur, « Je suppose que vous ne me prenez pas pour un fou !» Comme je le regardais en souriant et en allongeant machinalement la main vers les plumes de l'oiseau immobile, il se leva de nouveau. On ne touchait pas au missionnaire. Il avait proféré ces mots avec la voix qui dut être celle de la voix de Charles Ier disant à un indiscret sur l'échafaud: « Ne touchez pas à la hache !»